Bonsoir et bonjour à tout le monde. Bienvenue. Je m'appelle Camille Cronier. Moi, je suis journaliste à la radio France Inter. Je travaille pour deux émissions sur France Inter. Je vous le dis juste rapidement pour que vous sachiez qui vous parle. Je travaille pour une émission qui s'appelle La Terre au Carré, qui est quotidienne sur les sciences et l'environnement. Et je travaille aussi depuis le mois de janvier sur une émission un peu plus historique de France Inter qui s'appelle Les Petits Bateaux, dont le principe est assez simple. C'est des enfants qui posent des questions sur n'importe quel sujet et des scientifiques, des spécialistes qui leur répondent en quelques minutes. Donc ma casquette petit bateau est peut-être plus adaptée à la conférence de ce soir, avec Mark Smith, qui est ici donc à ma droite. Vous êtes donc auteur de ce petit livre jaune, qui était donc une conférence que vous avez faite il y a 10 ans. Je l'ai appris là il y a quelques minutes. Je ne savais pas que c'était il y a 10 ans. Je savais qu'il y avait une conférence, mais pas il y a si longtemps, qui s'appelle « La véridique histoire de l'arobase ». Vous êtes professeur en paléographie à l'École nationale des chartes. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et, j'aurais tout dit, vous êtes également président du Comité international de paléographie latine. La paléographie, d'abord, juste quelques mots sur cette discipline. C'est donc l'étude de l'écriture, donc à la fois de la forme, mais du fond aussi, bien évidemment.
Effectivement, la paléographie, c'est l'histoire de l'écriture, disons. L'étude de l'écriture ancienne, selon l'élément paléo, mais il n'y a pas de raison d'arrêter l'histoire de l'écriture à une date quelconque.
Donc vous pouvez encore étudier mon écriture magnifique, par exemple.
Ce serait... okay. Voilà, les paléographes ont tendance à s'arrêter plus ou moins aux alentours de l'invention de l'imprimerie, en considérant que c'est cuit pour l'écriture manuscrite et qu'on va s'arrêter là. En réalité, il y a toute une série de développements postérieurs à l'invention de l'imprimerie, et en liaison aussi avec ce qui se passe dans l'imprimerie, qui sont intéressants à étudier dans la longue durée, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui même, alors que certains pensent que l'histoire est finie, que
elle continue.
L'écriture manuscrite subit de nouvelles mutations, on se demande si elle va perdurer ou pas.
Ouais, ça, on va y revenir tout à l'heure, mais effectivement, l'avenir... Bon, vous voyez, moi, j'ai écrit à l'ordinateur, mais j'ai quand même un cahier, un stylo, voilà, donc tout n'est pas totalement perdu. Vous, vous en êtes arrivé comment à vous spécialiser dans la paléographie ?
Alors, par ma formation donc, à l'École des Chartes, comme futur conservateur d'archives. Donc, c'est une formation qui amène d'abord à une paléographie pratique, disons, du déchiffrement, l'apprentissage de la lecture pour pouvoir aborder les manuscrits et les documents les plus variés. Et puis au-delà, donc, au-delà du simple apprentissage du déchiffrement, il y a donc cet aspect historique auquel je suis venu petit à petit. Je n'étais pas destiné à la paléographie initialement.
Vous étiez destiné à quoi ?
D'histoire du XVIe siècle.
Et puis hop, vous avez bifurqué.
Et bifurqué, voilà.
Donc vous savez lire toutes les écritures, même celles des médecins les plus coriaces niveau.
C'est de la néographie.
Non, mais ça doit être difficile de lire toutes les écritures. Hein. Il y a certains documents historiques, quand on est en visite dans un musée ou même dans votre livre, là, il y a pas mal de facsimilés, hein, de copies. Ouais. C'est difficile quand on n'a pas l'œil.
C'est difficile. C'est moins une question d'œil qu'une question de formation. C'est-à-dire que les écritures anciennes sont difficiles à première vue, mais elles sont beaucoup plus disciplinées que les nôtres, en fait. Et l'écriture des médecins, ou même la nôtre, la vôtre et la mienne, pour l'historien de l'an 3000, sera beaucoup plus difficile qu'une cursive mérovingienne, parce qu'elle est moins disciplinée, qu'elle est plus individuelle.
Elle est plus individuelle. Bon, on va revenir sur ces points, ça m'intéresse, l'écriture individuelle. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'objet de ce livre, donc l'arobase. Je pense qu'on est à peu près une majorité à l'utiliser tous les jours, ou presque. Quand la fondation m'a contacté pour que je vienne converser donc avec vous, j'ai répondu, j'ai copié ça sur ma petite feuille. Je n'ai pas pour habitude d'animer des événements, mais je vous avoue que l'ouvrage m'intrigue autant qu'il me plaît. Donc je vous annonce que c'est ma première fois, certainement ma dernière. Mais voilà, ce petit livre m'a vraiment intriguée, m'a plu, j'ai appris plein de choses. Ça a vraiment attisé ma curiosité, donc ça, on va y revenir. Je voudrais juste d'abord demander qui ici a lu ou a vu la conférence il y a 10 ans. Est-ce que vous avez tous une idée de ce dont on va parler, si ce n'est de l'arobase ou pas ?
Non, c'est de l'idée.
Non, bah, très bien. Comme ça, non, mais c'est pour savoir, parce que si vous êtes déjà au courant, peut-être qu'il y a des points sur lesquels on ne s'attardera pas, donc c'est parfait, personne ne l'a vu.
Je précise que le livre est quand même différent sur un certain nombre de points de la conférence, parce que
parce qu'il s'est passé 10 ans et que vous avez... voilà. Bon, par contre, vous n'allez pas nous en vouloir. On va forcément vous spoiler un petit peu l'histoire de l'arobase. Hein, donc, ça ne vous empêchera pas de le lire et découvrir des choses, puisqu'on ne va pas tout dire. Mais vous allez quand même avoir beaucoup d'informations qui sont contenues dans le livre. Juste, pourquoi vous avez choisi de travailler sur l'arobase? C'est quand même assez étonnant.
Au début, c'était un défi qu'on m'a lancé... en disant, et si tu faisais une conférence sur l'arobase, ce serait amusant et tout. Moi, j'ai immédiatement refusé.
Pourquoi ?
En disant, non, l'arobase, il n'y a rien à dire. Il y a un article Wikipédia qui fait certainement le tour de la question. Voilà. Et puis, j'ai quand même allé voir cet article. Je suis allé voir en ligne tout ce qui traînait à droite et à gauche sur le sujet. Je me suis rendu compte que c'était un tissu d'incohérence qui avait certainement intérêt à secouer. Et donc, j'ai commencé à chercher, effectivement, de proche en proche. J'ai fini par trouver une histoire qui est... plus complexe et plus claire à la fois que celle qu'on nous servait et qu'on nous sert encore beaucoup puisque c'est un des propres de l'Internet. Ce qu'on a dit ne disparaît jamais, finit toujours par refaire surface. Le vrai et le faux se mélangent partout.
Histoire à rebondissement. Mais donc, vous, c'est vraiment quelqu'un qui vous l'a suggéré jamais en tant que paléographe, quand même, c'est étonnant. Vous vous êtes posé la question sur l'arobase.
J'en ai pas pensé, non. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, quand est-ce que tu nous fais l'hashtag?
Voilà, donc... c'est au programme.
Je pense que c'est moins compliqué que l'arobase, ça aurait peut-être moins d'intérêt.
Et vous avez travaillé comment, là, sur ce livre-là et sur cette conférence, par ailleurs?
Alors, je suis parti, en fait, de ce qu'on en disait, pour essayer de trier ce qui pouvait être utile et ce qu'il fallait éliminer tout à fait. Dans les sources disponibles, ce qu'il fallait éliminer, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait juste quelques documents qui avaient été mal lus ou quelqu'un avait cru reconnaître une arobase, alors qu'en fait, c'était autre chose. Mais ce qui était à reprendre entièrement, c'était l'interprétation des rares documents qu'on avait. Voilà. Mm-hmm. Donc, ça m'a intéressé, du point de vue, disons, de la méthode historique, de voir comment, sur un point aussi mineur...
tellement présent...
C'est vraiment un détail de l'histoire de l'écriture, mais qui actuellement a l'intérêt que l'on sait parce que c'est un signe qu'on a partout... il m'a semblé que c'était l'occasion de voir comment, en appliquant les méthodes de l'érudition la plus rigoureuse à un point qui pourrait paraître tout à fait anecdotique, on pouvait donner une sorte de leçon des méthodes de l'historien sur un sujet qui n'est presque rien, hein, et dans un esprit, et puis ça m'amusait.
Hein. Ça vous amusait, oui. Et vous y avez passé du temps ?
J'ai passé pas mal de temps, oui, à poursuivre alors des sources d'abord, sur Internet, pour voir jusqu'où on pouvait aller. Hein, et puis, il y a des choses que je n'ai pu trouver que dans les archives.
Il y a des documents très anciens, hein, on va y venir, mais documents anciens. 90 pages, donc vous écrivez quand même que vous auriez pu en faire un séminaire de plusieurs semaines. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des choses à dire. L'arobase aujourd'hui, quelques mots sur lui. Vous écrivez que c'est l'icône même de la communication moderne, un élément majeur de la culture populaire.
Oui, mais ça, c'est... Finalement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. En soi, c'est une banalité et c'est le point de départ, plutôt.
C'est ce qui fait. Mais en quoi c'est une icône et en quoi ça fait partie de la culture populaire ?
Alors, c'était peut-être vrai plus encore il y a 10 ans que maintenant. Dans la première décennie ou les deux premières décennies de l'Internet, on voyait l'arobase partout. On voyait des enseignes de café Internet, il n'y en a plus beaucoup. Et l'arobase a beaucoup servi symboliquement dans des... Donc dans des enseignes, dans des cartes de visite de sociétés commerciales, tout le monde était, à l'époque de la première bulle d'Internet, l'arobase était partout. Ça a été un peu remplacé depuis par des formes alternatives.
Le hashtag, par exemple, vous en parliez aussi, non ?
Je pensais, oui, le hashtag un peu, mais aussi d'autres façons de dire la communication, numérique. Et donc des termes comme le e-commerce ou e-commerce, selon la manière dont vous le présentez, dont vous le prononcez, on ne dira pas l'arobase commerce. Voilà. Mm. Il y a des marques, notamment Apple avec des AI ceci et des AI cela.
Qui sont venus presque le dépasser.
Ça se fait concurrence, disons. Mm. L'arobase est toujours bien, bien présente et visible, mais il y a d'autres... D'autres formes qui s'y sont ajoutées.
Enfin, vous écrivez quand même que c'est un chef-d'œuvre involontaire. Oui. J'aime bien cette expression, chef-d'œuvre involontaire.
Du point de vue de la forme, alors, involontaire, on y reviendra peut-être plus tard, involontaire parce que ça a été choisi un peu par hasard au départ pour servir à écrire les adresses des messages électroniques. Et ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre de forme, c'est que c'est la première lettre de l'alphabet, que c'est, en plus, alors, entre les différentes formes possibles d'un A, ce n'est pas un art romain, bien posé. C'est un A italique, qui est une lettre cursive, donc comme l'écriture manuscrite, comme une lettre qui court. Hein. Et puis ce trait tout autour, qui est un geste prolongé par la main, issu également de la cursivité à la plume, etc., mais qui évoque aussi le mouvement, la communication, un mouvement sans fin, si vous voulez, l'Internet qui court autour du globe. Enfin, on peut
interpréter plein de choses. Alors, ses origines, donc vraiment énormément d'hypothèses, de scénarios sur toutes les origines. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parlez même d'une cacophonie, c'est-à-dire que, en gros, si aujourd'hui je vais aller sur Internet ou même je demande à quelqu'un dans la rue, au fait, tu sais d'où ça vient l'arobase, je vais avoir plein de versions différentes, c'est ça ?
Oui, il y a plusieurs explications. Alors, il y en a une surtout qui courait avant 2000 déjà, qui était une explication donnée par un philologue en 1932 dans un livre sur les origines de l'écriture actuelle et qui mentionnait entre autres abréviations l'arobase en disant c'est une déformation d'une ancienne graphie du mot ad, donc de la préposition a en latin, ce qui était une pure hypothèse de sa part. Donc c'est Berthold Ullmann qui disait ça en 1932.
Donc il l'a sorti comme ça, il a dit tiens, je vais...
Comme ça. Voilà. Ça lui évoquait un A, en fait, avec un D, vous voyez, un D arrondi, alors je vous le trace à l'envers pour ceux qui sont dans la salle, et qui ferait le tour comme ça, qui serait prolongé autour du A. Voilà.
Juste pour info, il y a tous les schémas, les images, etc., dans le livre.
On voilà, peut le défi, c'est de faire tout ça sans images. Ouais. Et donc ça, c'était son explication. Et il a eu le malheur, alors ça, je dois être un peu technique, d'expliquer ça en disant un A et un D oncial exagéré. Oncial, pour les paléographes, ça veut dire un D précisément arrondi, comme ça, mais ça renvoie, pour les origines de cette forme, à une écriture dite écriture onciale qui était utilisée dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Et donc, les gens se sont jetés sur cette explication.
Ils ont dit, ah, voilà, ça vient de là-bas. Ouais. C'est vrai
en fait,
ou pas
ben non. En fait, ce D arrondi, aujourd'hui encore, il y a des gens qui l'utilisent. Donc, lui, ce qu'il imaginait sans doute, c'était un tracé de ce genre, probablement, je ne sais pas, du XVIIIe siècle ou quelque chose comme ça.
Bon, alors justement, tant qu'on est dans les hypothèses qu'on démonte, hypothèse. On va commencer par démonter les hypothèses, on va dire, les plus connues et les plus faciles à éliminer. Dans votre enquête, vous m'avez dit au téléphone, voilà. C'est une enquête Sherlock Holmesque sur l'arobase. Il y a vraiment des choses à dire, c'est très rigolo.
Donc la première partie du livre, en effet, la première moitié,
elle est vraiment consacrée.
C'est un peu la démolition de toutes les fausses théories.
Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un jeu de société pour les enfants qui s'appelle le Qui est-ce là-bas, et ben, c'est exactement pareil. Si vous avez fait du qui est-ce avec l'arobase. Alors, première hypothèse. Là, on parle d'une préposition qui est liée aux moines copistes. Allez, je donne le mot-clé, les moines copistes, et je vous laisse dérouler.
Voilà, donc ce que les gens ont cru pouvoir tirer de cette explication par Ullmann, c'était que ça avait été inventé par des moines copistes du Moyen-Âge. Et alors, il y a des précisions qui sont arrivées de je ne sais où et qui traînent partout sur Internet, des moines copistes du VIe siècle.
Oui, parce que le Moyen-Âge, c'est très long, donc VIe.
Okay. Donc, VIe, oui, quelqu'un devait savoir qu'on utilisait l'oncial au VIe, mais voilà. Donc ça, c'était la première explication. Ensuite, en 2000, il y a eu un bouleversement avec un article publié en ligne par un historien italien, Giorgio Stabile, qui était historien des sciences et philosophe, et qui a trouvé lui, une lettre de 1536, datée de Séville et expédiée par un marchand florentin qui était en Espagne à un collègue de Rome, dans lequel il y avait...
Un truc qui ressemble à un arobase.
Une arobase, oui, une forme d'arobase.
Une arobase, pardon, c'est un nom féminin.
Oui, pareil, officiellement, on a décidé voilà, que c'est féminin. Et dans ce cas-là, alors, ce n'était pas une préposition, c'était l'abréviation du mot arroba.
Qui voulait dire quoi en Espagne ?
Donc, un mot espagnol qui désigne une unité de mesure qui remonte au XIe siècle, première attestation 1088, et qui est une mesure de poids ou de capacité, selon les cas, et qui est un quart de quintal, dont 25 livres. Et le mot vient de l'arabe « rub », qui veut dire « le quart voilà. ».
Quand c'était sur le manuscrit, abrégé, ça ressemblait à ça.
Abrégé, ça ressemble à ça. Alors, je n'entre pas dans les détails, il a fait un cheminement beaucoup plus complexe.
Mais ça, c'est, en gros, c'est plus les on n'est plus dans les moines copistes, là.
Non, on n'est plus du tout dans les moines copistes.
Donc, les moines copistes, vous l'avez éliminé très vite.
Les moines copistes, oui, ça, il ne faut pas en tenir compte du tout.
C'est quoi les Italiens qui écrivent, mais d'Espagne, donc quoi, j'ai vous expliqué, il y a une petite anecdote rigolote, que Séville, l'Office du tourisme de Séville, a dit, regardez, l'arobase, ça vient de chez nous, donc venez, on a trop la classe, en gros, venez nous rendre visite, venez faire du tourisme chez nous, comme si c'était les Espagnols, donc, qui étaient un petit peu à l'origine. Ce n'est pas vrai.
Et pas que les Espagnols. Parce qu'à ce moment-là, quand ce document est sorti, ça a excité beaucoup de monde. Et effectivement, en donnant une localisation hypothétique à l'origine de l'arobase, ça a suscité toute une série de réactions étrangement nationalistes, patriotiques, campanilistes. Et les Italiens ont proclamé, voilà, c'est nous qui avons inventé l'arobase. C'est encore une preuve du génie italien. Les Espagnols ont dit, pas du tout, c'est écrit en Espagne.
C'est nous.
Et là, c'était nous. Les Catalans, sans beaucoup de preuves, ont dit, en fait, c'est d'origine catalane, mais les Espagnols, les Castillans et les Italiens nous l'ont volé. Parce qu'ils avaient trouvé quelques traces de l'utilisation de la mesure d'arobe en Catalogne. Donc ça a été une foire d'empoigne extraordinaire. Les Vénitiens qui disaient, c'est nous, ils avaient mal lu. Le premier article paru dans la presse italienne avait été fait un peu vite. Et il avait échappé que c'était entre Florence et Rome. Il a dit, voilà, c'est une mesure vénitienne. Alors les Vénitiens, tout contents, voilà, c'est une mesure vénitienne.
Bon, et au final, c'est rien de tout ça.
Était encore plus compliqué, parce que la lettre était envoyée par un Italien, mais écrite par un scribe espagnol. Et ça, c'est la paléographie qui peut le dire. Le style de l'écriture est espagnol. Donc, il écrit en italien, mais c'est une main espagnole.
Vous pouvez, petite parenthèse, vous pouvez reconnaître le style de l'écriture qui est espagnol et pas italien, par exemple.
Mais ça, pour l'époque moderne, c'est normal. Les écritures à l'époque moderne sont plus différentes que jamais entre les différents pays d'Europe. C'est-à-dire qu'un espagnol écrit d'une manière qui est pratiquement illisible pour un allemand et vice-versa. Mmh. Et donc, là, les styles se reconnaissent bien. Oui.
Bon, alors, donc... Pas les moines copistes.
Donc, les moines copistes éliminés.
Pas le document de 1536 dont vous parlez.
Alors, le document de 1536, il faut quand même en tenir compte.
Il va aider dans l'enquête. Oui. Mais en tous les cas, ce n'est pas l'origine, on va le dire ça. Il y a aussi une histoire de caractère typographique. Il traîne là, il est là, il est dans des documents, mais on ne sait pas trop à quoi il sert, c'est ça, en Espagne.
Dans ce document-là, il n'est pas typographique, il est...
Mais il n'y a pas un... Alors, pardon, mais moi, dans ma tête, il y a une troisième fausse hypothèse. Voilà.
Oui, alors il y a une hypothèse typographique, en effet, qui est peut-être la plus farfelue, qui est, alors là, c'est sur des bases purement linguistiques, une hypothèse alors, qui semble être née au Canada, qui prétend que le mot « arobase » viendrait de « aromba », qui voudrait dire, soi-disant en langage de typographe, un « a » arrondi en bas de casse, donc minuscule. Hein. Donc ça, ça a eu beaucoup de succès aussi. Il n'y a aucune trace d'aucune sorte dans la documentation historique et c'est vraiment une pure hypothèse qui a germé comme ça dans la tête de quelqu'un qui continue à... C'est très pittoresque et séduisant, donc ça continue. Et alors, la conséquence de ça, c'est quelque chose qui est constant dans cette affaire, c'est qu'en raisonnant sur le signe, les gens constamment, alors à défaut de sémiotique élémentaire, ont constamment confondu le nom du signe, sa forme, sa fonction et la manière dont on le prononce dans une adresse. Voilà. Et donc, le fait que ça s'appelle arobase, qu'on puisse dire que ça remonte à aromba, ça le lie à la typographie. Et donc, quelques-uns commencent à écrire, donc ça remonte à Gutenberg. Voilà. Vous voyez, les raisonnements par proximité qui n'ont aucune logique. Voilà.
Et c'est faux,
donc,
on est d'accord.
Évidemment faux.
C'est faux. Dans tous les documents quand même dont vous parlez, il y a eu... on va dire, un domaine qui ressort particulièrement. Alors, vous parlez de factures, de douanes, de reçus d'huile, etc. Donc, ce sont des documents commerciaux. Donc, on trouve ce que vous qualifiez, vous avez remarqué, M. Smith parle de signes, il ne parle pas de caractère.
Oui, c'est une petite nuance. Caractère simple. Pour la typographie ou la dactylographie.
Voilà, et là, vous voulez parler d'un signe pour l'arobase. Donc, on retrouve ce signe dans, quand même, beaucoup les documents commerciaux. Comment vous l'expliquez, ça?
Alors, ça, c'est quelque chose qu'avait repéré Giorgio Stabile, en notant cet arobase dans cette lettre commerciale de 1536, et en essayant, c'était sa théorie, en essayant de rattacher ça au signe, alors tel qu'il était connu à une époque très postérieure en Angleterre et aux États-Unis, avec l'arobase utilisé pour at, dans les documents commerciaux également, dans les factures en particulier, tant d'articles à tel prix, at, écrit toujours régulièrement avec une arobase. Et donc il a essayé par des tours de passe-passe sémantiques, de faire dériver ce signe at de l'arobase, de l'arroba espagnol, parce que le signe ressemble, mais en fait, sémantiquement, ça n'a aucun rapport. Voilà. Et donc, il y a vraiment un problème là dans la jonction. Il suppose une filiation, mais qui est inexplicable.
Pareil. Alors,
Les documents commerciaux, effectivement, l'arobe se trouve constamment au fil de l'époque moderne, mais simplement, non pas comme une abréviation, mais pour représenter la préposition « à ». Voilà, et ça, c'est l'autre chemin que j'ai parcouru. Hein, et en montrant, donc, il y a deux évolutions parallèles et qui ne se croisent pas du tout. L'une, l'arobase comme abréviation, et comme abréviation de toutes sortes de mots.
Donc, par exemple ?
Alors, par exemple, donc, en Espagne, arroba, en France, l'aune, hein, la mesure de longueur, l'aune. Et puis, à l'intérieur d'autres mots aussi, anno, en latin, dans les dates, très souvent abrégé, arrobase, et puis un petit o suscrit, etc. Et donc, c'est un signe génériquement utilisé pour des abréviations, mais de tout et n'importe quoi. Et dans cette fonction-là, c'est quelque chose qu'on trouve dès la fin du XIVe siècle.
Ah voilà, j'allais vous. C'était ma prochaine question. Quelle est, selon vous, aujourd'hui, en 2023, quelle serait la date du point de départ ? On va faire un petit saut dans le temps, parce que voilà, mais quel serait le départ, du coup, de tout ça ?
Donc en fait, il y a deux points de départ. Il y a deux filiations, une abréviation et une préposition à. Donc là, la première occurrence que j'ai d'abréviation à sous forme A et un trait entourant la lettre, c'est en France, en Franche-Comté, hein, à Ornans, en 1391. Voilà. On en trouverait peut-être qui serait un peu antérieur, mais pas de beaucoup.
Donc en France. Donc ça voudrait dire
Cocorico, que... c'est pas les Espagnols, c'est pas les Italiens, c'est les Français.
C'est pas les Américains. c'est certainement pas les Américains à cette époque-là. C'est plutôt la France.
Donc, de ce côté-là, c'est français et c'est assez compréhensible. En fait, c'est un
type d'écriture qui vient de France, qui vient de la chancellerie royale française du XIVe siècle et qui a été diffusée dans toute l'Europe.
Et cette forme a circulé par ce biais-là aussi. Deuxième date.
Oui, deuxième date, c'est ça que vous voulez.
C'est A, préposition, tracée avec un trait. Alors, c'est un peu technique aussi. C'est, dans l'écriture espagnole, il y a un certain nombre de lettres, en particulier des mots formés d'une seule lettre, O, A, E, qui sont souvent écrits avec un petit trait qui les précède, un petit trait un peu ornemental ou distinctif pour dire attention, cette lettre, c'est un mot à soi tout seul. Et ce petit trait qui précède la lettre a fini par entrer en ligature et former des arrobases parfaites. Et cela, donc, en Espagne, on revient à l'Espagne et on revient à la zone aragonaise-catalane. Hein, donc ça fera très plaisir aux Catalans. Et là, on trouve chez un notaire aragonais, donc en 1415, la première arrobase parfaitement formée que j'ai repérée, mais encore une fois, il y en a
1415. Donc ça serait
donc
vraiment.
On est à une date relativement proche, hein, et dans un type d'écriture proche aussi de celui où ça apparaît en France.
Est-ce que vous avez des informations sur pourquoi justement ce A est entouré ? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il est présent partout, mais qui aurait eu décidé ou comment, pourquoi d'entourer ce A comme ça ?
Ça nous amène à des questions un peu techniques de paléographie.
Mais
disons simplement, d'une manière générale, au développement de la cursivité, c'est-à-dire à l'enchaînement des traits, hein, au lieu de séparer les lettres et les éléments des lettres. Et donc, dans cette nouvelle écriture, précisément, issue de la chancellerie française au XIVe siècle, on a en effet une écriture qui permet de lier les traits beaucoup plus que précédemment. C'est sans doute lié à une nouvelle façon de tailler la plume, un peu en biais, qui donne plus de souplesse, etc.
D'accord, donc ce n'est pas une intention.
Il n'y a pas une intention. Ouais.
C'est un prolongement. Au départ, c'est cette A abréviation, c'est un A surmonté d'un trait abréviatif plus ou moins horizontal. Et on a fini par les tracer ensemble, sans lever la plume. Dans le cas espagnol,
c'est un peu pareil, sauf que ce n'était pas un trait au-dessus, c'était un trait présent à droite de la lettre,
à gauche, pardon, avant la lettre, qui a fini par se
lier, comme beaucoup d'autres lettres dans l'écriture espagnole, en fait. L'écriture espagnole est extrêmement cursive et liée
dans beaucoup de ses manifestations, et donc on a des écritures espagnoles qui sont des
vraies jungles de boucles d'un bout à l'autre de la ligne, et donc c'est pas étonnant que ce soit apparu en Espagne. Et après, ça a circulé par les Italiens, etc.
Donc quand même, là, tout ce que vous venez de nous dire, c'est ça reste très lié malgré tout au commerce, on est d'accord, au commerce international aussi.
Au départ, non, pas à l'origine. Le document français, c'est une lettre de bourgeoisie, donc,
délivrée à quelqu'un
qui devient bourgeois dormant. Et en Aragon, c'est chez les notaires. Ce sont des gens qui écrivent
rapidement, cursivement, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, ensuite, c'est repris effectivement par les commerçants.
Mais alors, tout ça mis bout à bout, est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce qu'on peut faire un lien entre tout ça et l'utilisation actuelle, non pas pour un courrier électronique, bien évidemment, mais pour le fait de dire at. Alors, on oui. l'adresse à quelqu'un oui, ou pas du tout, en fait.
Oui, c'est là que ça passe par le commerce, en fait. Le propre des écritures commerciales, elles ont des styles différents dans le temps, mais le propre des écritures commerciales, d'une manière générale, c'est précisément d'être très cursive, très rapidement écrite, hein, donc très liée. Et donc, ça favorise ce genre de développement. Et alors, ce qui ressort, en fait, de l'ensemble du parcours, si on condense l'histoire, c'est que ce qui s'est transmis, c'est moins un signe que la préposition « à » elle-même comme mot utilisé dans les documents commerciaux. C'est un mot, donc, italien. C'est la préposition « à » essentiellement en italien, au départ. Est utilisé par les Italiens pour dire à telle date, à telle personne, à telle feuille de mon registre,
à tel taux, à tel prix, etc.
Et ce terme se répand avec les méthodes de comptabilité italiennes, les méthodes commerciales italiennes, et finit par être adopté aussi bien dans d'autres langues. Au lieu d'utiliser la préposition locale dans la langue du pays, on utilise à.
Ça devient un peu universel.
Et donc, dans les documents, aussi bien les documents comptables suédois, voilà, pour indiquer le prix de quelque chose, on mettra A, écrit à l'italienne, avec A et un accent, à l'italienne ou à la française.
Il est possible qu'à l'époque moderne, il y ait une interférence.
Évidemment, la diffusion européenne du français.
La position est la même.
Et donc, c'est cela qui finit par arriver en Angleterre. Donc, les Italiens l'écrivent très souvent enroulé.
Ouais.
Dans les pays
comme l'Allemagne,
pays nordiques, etc., où la préposition « à » est par définition étrangère, elle n'a pas besoin d'être
singularisée d'une manière graphique, elle est visuellement
exogène de toute façon. Et elle est vue pratiquement comme une sorte de signe mathématique abstrait.
Juste le « à ».
Juste le « à ».
Donc là, il n'est pas en... D'accord, mais il n'est pas entouré. D'accord.
Il est entouré dans les pays de langue romane.
Alors vous dites, quand il arrive en Angleterre, comment arrive-t-il chez les... D'abord en Angleterre, puis ensuite, plus tard, aux États-Unis.
Et donc, il arrive un peu plus tard, me semble-t-il, en Angleterre qu'ailleurs. Peut-être en partie parce qu'en anglais, il risquait de faire une confusion. Alors, d'une part, le mot anglais équivalent « at », il n'y a pas grand-chose à gagner en écrivant « à ». On ne gagne pas beaucoup.
Une lettre. Et encore.
Et par ailleurs, en anglais, il y a un risque de confusion avec l'article anglais « à ». Qui figure dans les mêmes textes. Et donc
il arrive comment? Il arrive par quel biais?
Il arrive également par des documents de commerce. Et on le repère. Alors on repère son développement en particulier. Ça, c'est un type de document que j'ai beaucoup utilisé parce que ce sont des livres sur lesquels je travaille depuis des années. Ce sont les modèles d'enseignement de l'écriture produits par ce qu'on appelle les maîtres écrivains dans les différents pays d'Europe. Et qui fournissent donc des modèles calligraphiques reproduits par la gravure, qui sont donc des écritures très formalisées. Donc ça, c'est très intéressant pour baliser voilà, la fixation d'une forme hein, dans l'enseignement. Ça veut dire que c'est vraiment entré dans l'usage. Donc j'ai suivi ça dans les différents pays. Et en Angleterre, on trouve une arrobase parfaitement formée que vers 1750.
Donc là, c'est vraiment tard par rapport au reste de l'Europe. Hein.
Ouais. Pour ça, les Anglais utilisaient aussi simplement « à » avec un accent ou avec un petit zigouigoui derrière pour dire « attention, c'est pas l'article. » Et ils se mettent vraiment à utiliser la forme à l'italienne enroulée dans les documents commerciaux d'enseignement que j'ai vus vers 1750.
1754, vous dites, je crois, dans le... 50, ah ouais.
Il a publié en 54, mais c'est daté de 50.
Soyons précis. Les États-Unis.
Donc, alors les États-Unis, c'est tout naturellement, hein, les Américains apprennent à écrire sur des modèles publiés en Angleterre. Donc, ils l'adoptent par là. Et on a aussi, alors le plus ancien document que j'ai trouvé en fait pour les États-Unis, c'est peut-être un hasard, et on trouve peut-être le plus ancien document en anglais, le plus ancien que j'ai trouvé, alors là c'est 1754, c'est un document écrit en néerlandais.
Ah oui, c'est ça. Alors, je faisais référence à celui-là, moi. Donc, ça arrive d'Europe, ça arrive aux États-Unis, 1754.
Ça fait partie de ces pays du Nord qui ont utilisé la préposition « à ». C'est passé en Amérique. Alors, je ne sais pas si peut-être sous l'influence de leurs voisins anglophones, on trouve les premiers arrobas ou bouclée de cette manière.
Mais il commence surtout à se diffuser avec une machine qu'il y a aux États-Unis. Et alors là, pour avoir la réponse, vous vous êtes appuyé, j'ai adoré cette anecdote, sur une enquête des passionnés de machines à écrire qui vous ont vraiment aidé.
Voilà. C'est un principe général en fait, de cette enquête, c'est que j'ai essayé de parcourir assez systématiquement les différents supports et les différentes techniques d'écriture. Puisque c'est un aspect qui m'intéresse dans l'histoire de l'écriture précisément, c'est comment le changement des techniques amène à une évolution des formes, ou à une fixation des formes. Et en particulier, la typographie fixe des formes qui, dans l'écriture manuscrite, ont tendance à varier.
Alors, les machines à écrire, ouais.
Voilà, les plus anciennes attestations en typographie et en dactylographie, puisque en remontant de l'ordinateur, on passe par la machine à écrire avant d'arriver à la typographie. Et alors là, effectivement, n'ayant aucune compétence particulière sur les machines à écrire, moi-même, j'ai regardé ce qu'on en disait, et puis j'ai fini par rentrer en contact avec un groupe de collectionneurs de machines à écrire, qui sont des passionnés qui s'occupent de machines à écrire du matin au soir, et qui collectionnent non seulement des machines à écrire, mais aussi de la documentation sur les machines à écrire. Et c'est là qu'on a trouvé, grâce à eux, la plus ancienne attestation de l'arrobase installé en série sur une machine à écrire, parce qu'il y avait des machines à écrire spécialement adaptées selon les demandes du client, on pouvait demander une touche spéciale, etc. Donc la première, c'est en 1883, le modèle Calligraph 2, version commerciale par rapport à la version standard, qui est précisément commerciale parce qu'on y a ajouté des signes monétaires.
Et justement, il communique là-dessus, dans la publicité, il y a...
Dans les publicités collectionnées par ces collectionneurs de machines à écrire, on a trouvé l'annonce de cette machine. Cette machine ne semble plus exister. On n'a pas trouvé d'exemplaire de cette machine dans une collection. Et là, la documentation papier permet de compléter.
Donc, l'arobase est présent sur la machine à écrire, mais il ne sert pas à son utilisation actuelle, dans le sens où ça sert à désigner un destinataire. Ou si...
à faire des factures, plutôt. Ouais. Donc, à des prix.
Toujours le commerce. Le business.
Oui. Alors, ce qu'il y a par ailleurs dans le monde anglo-saxon, et c'est là quelque chose qui avait complètement échappé jusqu'ici, et qui m'avait échappé moi-même au moment de ma conférence, que j'ai trouvé depuis dans des manuels de typographie américaine, c'est qu'en anglais, le signe était donné pour l'équivalent de at, ce que tout le monde sait, ou de to.
C'était pour les deux.
Et particulièrement en Amérique, semble-t-il. Et en réalité, donc ça confirme parfaitement le fait que ce qui a circulé, c'est un mot, hein, c'est la préposition « à », qui est non pas développée à partir d'une abréviation en anglais, mais traduite par « at » ou « to ».
Donc, c'est la préposition plus que l'abréviation.
La préposition italienne qui a circulé. Alors là, j'ai un scoop.
Suspense.
Un scoop, voilà. Ça arrive toujours juste quand on vient de publier le livre. J'ai trouvé, il est passé en vente la semaine dernière, un document d'un genre sur lequel je ne serais jamais tombé normalement et qui ne doit pas figurer en quantité dans les archives. C'est une liste postale, avec une liste donc de lettres adressées à un tel, à un tel, à un tel, à un tel, en anglais. Donc, avec une série d'arobases, lettres arobase, un tel, arobase, un tel, arobase, un tel, qui, dans ce cas, en anglais, ne peut se lire que « to ».
Et elle date de quand ?
Et elle date de 1698, ce qui avance...
Bah de presque un siècle, quasi.
50 ans.
Oui, 50 ans, ouais, 1750.
Pour la forme, hein, par rapport à la première attestation parfaite de l'arobase pour at, etc., ça fait 50 ans. Mais en tout cas, ça confirme d'autant mieux que at, dès l'origine, n'est pas la seule lecture de l'arobase. Et je serais très curieux de savoir comment, dans les autres langues, on lisait ce signe. Comment est-ce qu'on le lisait en suédois, en néerlandais.
Et ça, vous pensez que vous pourrez le savoir un jour?
La langue locale aussi.
Et vous, est-ce que, juste petite parenthèse, est-ce que vous travaillez avec des collègues d'autres pays, justement, d'autres universités, pour parfois essayer d'unir vos forces et vos moyens ?
J'ai eu beaucoup de conseils, de documents fournis par des collègues américains, anglais, etc.
Bon, l'usage actuel, donc c'est un hasard. C'est un hasard, ça se passe aux États-Unis. Et c'est avec un monsieur qui s'appelle Ray Tomlinson, c'est ça ? Racontez-nous.
Voilà, c'était un informaticien qui participait donc... à l'expérimentation de ce qui allait devenir Internet, qui s'appelait encore à l'époque ARPANET, qui était un projet expérimental militaire. Et en 1971, il a été responsable de l'envoi du premier message électronique d'une machine à une autre machine, À l'époque, ça ne faisait pas le tour de la Terre, c'était dans la même pièce. Donc, entre deux téléscripteurs
un peu steampunk,
on dirait de la science-fiction des années 50, des grosses machines avec des touches cylindriques. Et donc, lui a choisi, un peu au hasard sur son clavier, cherchant un signe pour articuler le nom de la personne et le nom du serveur, enfin, de la machine sur laquelle il envoyait le message, a repéré ce signe dont il ne savait pas trop à quoi ça servait, et il a utilisé ça dans l'adresse. Voilà. Sans même savoir, semble-t-il, que ça pouvait signifier
« at » ou « tout », c'est ça. Donc, il a, c'est vraiment, le signe était là, donc on remonte avec la machine à écrire, etc., les ordinateurs, bref, il était présent désormais sur les claviers. Il a dit, il faut que je trouve un truc qui ne soit pas une lettre, etc. Il a fait ça au hasard, et c'est à partir de là que le « at », l'arrobase, est vraiment dans nos vies, partout, tout le temps.
Il a fait ça en pensant en particulier que l'arrobase ne serait jamais inscrit dans le nom de quelqu'un, et donc il ne pourrait pas créer de confusion. En quoi il a failli être déjoué par deux parents chinois qui, autour de l'an 2000, ont voulu appeler leur enfant
« arrobase, at ».
Idéogramme de l'arrobase. Parce que, paraît-il, si on le prononce « at sign », prononcé...
En chinois, en mandarin, oui.
Donc quelque chose qui, en chinois, ressemble à « je l'ai ». Donc ça paraissait charmant pour un bébé. Les autorités chinoises n'ont pas trouvé ça charmant du tout.
Ils ont dit non.
On l'a empêché. Donc, ce gamin peut avoir une adresse Internet comme tout le monde. Ça crée une confusion.
Donc ce signe, il part vraiment de très loin. Il arrive jusqu'à nous aujourd'hui avec, c'est ce qu'on disait, des rebondissements extraordinaires. Et au final, l'utilisation actuelle vient d'un hasard. C'est quand même assez énorme pour un bon hasard, en l'occurrence.
Et qui en a fait, comme on disait, une espèce d'icône universelle. Et Ray Tomlinson, curieusement, a été consacré comme une sorte de génie de l'Internet. Enfin, il est certainement génial lorsqu'il a renvoyé un email. Mais le choix de l'arrobase en soi, quelque chose... qu'on a glorifié peut-être plus encore que le reste de son travail. Et donc le MoMA, en particulier...
Le Muséum d'Art Moderne. Ouais.
En 2010, j'ai fait un coup de pub en inscrivant à son catalogue l'arrobase, en disant l'icône de la modernité, etc. Et ils ont fait de Ray Tomlinson une sorte de génie artistique qui aurait inventé ce signe. Voilà.
Alors que pas du tout. Est-ce que vous pensez que lui sait tout ce qui était arrivé avant à ce signe? Est-ce que lui est au courant d'où arrive cette arrobase au final?
Heureusement, il vient de mourir.
Mais est-ce que vous pensez qu'il aurait pu savoir, même il y a 10 ans?
Il y a 10 ans, il aurait fallu qu'il regarde ma compte.
Donc en fait, il n'a jamais connu l'histoire, la véridique histoire de l'arrobase, jamais.
Exactement.
D'accord, bah, paix à son âme. Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir, vous pensez, ou est-ce que là, vous êtes remonté quand même très loin?
Sur les lignes générales de l'évolution, je pense que... à peu près au point, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise comme ça, un nouveau document qui bouscule les dates. Pour le XIVe siècle, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin, parce que ce type d'écriture, précisément, techniquement permet ce genre de tracé qu'on n'aurait pas pu faire au siècle précédent. Mais pour des usages plus récents, j'aimerais bien trouver des exemples antérieurs anglais encore, parce que ce 1698, c'est déjà une date qui nous avance, qui nous fait reculer d'un bon... intéressant, mais les arrobas sont déjà tellement parfaites dans ce document que je me dis que ce n'est pas lui, ce n'est pas ce postier qui les a inventés. Voilà.
Donc ça veut dire qu'ils étaient là avant.
Ce que j'avais observé, alors quand j'essayais de retrouver les dates les plus anciennes pour l'Angleterre, c'est qu'il y a un premier livre de maître écrivain, donc spécialement dédié à l'écriture pour commerçants, hein, qui est vraiment une spécificité de l'enseignement de l'écriture en Angleterre, c'est pour le business. Et lui, en 1688, donc, il fait un livre spécial pour les commerçants où il met toutes les abréviations commerciales et il ne met pas celle-là. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il est peu probable que ce soit très antérieur à la fin du XVIIe. Enfin bon, on s'en rapproche quand même beaucoup.
Et comment vous analysez, vous, puisque votre discipline, c'est aussi d'analyser, de lire un peu, on va dire, les sociétés à travers l'écriture. Comment vous analysez finalement toute cette histoire de l'arrobase, toutes ces aventures-là?
Bah, il me semble que c'est plus intéressant que simplement d'aller à la poursuite d'un signe en prenant en vrac toutes ces apparitions, quelle que soit leur signification. Il me semble qu'en le suivant plus du côté de sa signification, justement, ça permet de raisonner sur la manière dont se répandent alors, à la fois les signes et des notions, en l'occurrence, liées à la technique de la comptabilité, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que évidemment, les revendications campaniliste, l'arobase est italienne ou l'arobase est espagnole, n'ont aucun sens.
Ou français.
Ou française.
Française, pardon.
Et que ce qui est intéressant, c'est de voir précisément la circulation. Et ça complète. Alors, c'est un aspect aussi de ce petit livre. C'est que j'ai voulu appliquer à un signe particulier et a priori marginal une méthode qu'on pourrait appliquer aussi bien à toutes les lettres de l'alphabet, aux signes de ponctuation, à tout ce qu'on veut. Hein. Simplement, celle-là bon, est suggestive par la fonction qu'elle a maintenant. Mais ça permet de mettre en valeur quelque chose qui est propre à l'histoire de l'écriture, à toutes les époques, et en particulier à l'époque moderne, et qui a été trop peu vu, je dirais, ou pas vu du tout, parce que personne ne s'occupe d'histoire de l'écriture à l'époque moderne sous l'angle paléographique, c'est que les formes également circulent d'un pays à l'autre. J'ai parlé de ces différences d'écriture très nettes d'un pays à l'autre, mais en même temps, les modèles circulent. Et les Anglais en particulier sont en bout de chaîne. Hein, ils regardent très attentivement ce qui se fait en France et ce qui se fait aux Pays-Bas particulièrement. Et l'écriture anglaise formée au XVIIIe siècle, qui nous est revenue sur le continent à la fin du XVIIIe et qui est encore le modèle de ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui en France, alors que les Anglais l'ont jeté aux orties depuis longtemps, donc ce qu'on appelle l'écriture anglaise, s'est formée au XVIIIe siècle sur la base de modèles français, hollandais. Voilà, donc c'est sans arrêt une sorte de melting pot qui mérite d'être analysé.
Et alors, vous parliez aussi de cette circulation. Est-ce que vous pensez que cet arrobase, et au tout début, vous nous racontiez qu'il était un peu en train de se faire dépasser, est-ce que vous pensez qu'il a de l'avenir ou est-ce qu'il y a un moment, il va stagner et il pourrait presque même disparaître?
Ah, ça, il faut le demander aux informaticiens.
Mais est-ce qu'il y a des choses comme ça intéressantes, vous qui avez du recul, qui ont apparu pendant plusieurs siècles même, mais qui à un moment disparaissent?
Dans l'écriture, oui, évidemment. Et justement, dans le domaine de l'écriture commerciale, il y a des signes qui ont été longtemps beaucoup plus utilisés que l'arobase, en particulier une abréviation très calligraphique, assez spectaculaire, qui est une espèce de grand P bouclé ou barré, qui est une forme qui remonte à l'Antiquité romaine et qui a été utilisée jusqu'au XIXe siècle pour le mot « père ». Voilà. Et c'était utilisé particulièrement en Angleterre. Et donc, pour écrire un pourcentage, par exemple, « percent », on écrivait le grand « P » barré et un grand « C », chiffre romain 100. Et sur les machines à écrire, avant l'arobase, on trouve ça. On trouve ce signe « P » et qui est remplacé dans les années 1880-90 progressivement par l'abréviation moderne du pourcentage, hein, qui a remplacé ce signe-là, qui avait quasiment 2000 ans d'existence.
Et alors, l'arobase, on va dire concrètement, existe aujourd'hui sur nos claviers d'ordinateur, en l'occurrence. Après, le reste, c'est du virtuel. Est-ce que vous pensez que dans quelques centaines d'années, si l'humanité est encore là, ce qu'on espère malgré tout,
c'est mon autre casquette,
est-ce que vous pensez que finalement, il y aura moyen de savoir qu'il était là, puisqu'en fait, il est quand même majoritairement virtuel? On l'écrit pas sur les murs,
ça, c'est
pas
un
beaucoup.
Problème. Alors moins pour informaticien que pour archiviste. Oui,
ouais, mais c'est la problématique
des archivistes à l'heure actuelle, c'est quelle est la possibilité de durer des archives numériques? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Dans l'immédiat, je pense qu'on va se servir de la messagerie électronique pendant un certain temps encore en utilisant l'arobase. Après, d'autres technologies viendront peut-être remplacer ça et nous.
Grande question, mais c'en est une. Est-ce que l'arobase sera visible finalement dans quelques siècles?
C'est que dans quelques siècles, s'ils la voient encore, ils se demanderont ce que ça veut dire. Il faudra recommencer le travail et faire une édition mise à jour.
Je vais laisser les personnes ici vous poser des questions, s'il y a des questions, évidemment. Ouais. Oui.
Je vais en suggérer, mais sur ce qu'on disait un peu au début, sur l'avenir, avec le côté virtuel, etc. Est-ce que finalement l'écriture manuscrite, peut-être que ça vous pose question, l'avenir de l'écriture manuscrite?
Ça, c'est une autre question. Plus vaste.
C'est lié quand même. Oui.
Combien savent faire correctement une arobase à la main, déjà?
Il
arrive de le faire quand on prend l'adresse de quelqu'un sur une carte, sur un post-it. Et on voit toutes sortes de tracés de l'arobase, à peu près aussi variés que celles qu'on pouvait observer au XVIIe siècle dans des documents portugais, avec des boucles dans tous les sens.
Allez, soyez patine. Vous savez tout.
Allez, voilà. Attends, le micro pour l'enregistrement, merci.
La genèse de la forme, alors du signe, du caractère. Mais à la fin, le nom, l'étymologie arabe, elle est plausible ou c'est
de Pardon, la... le nom
L'étymologie que vous avez dit, un quart qui vient de l'arabe, ça c'est plausible
Ça ou... c'est vrai. Ça,
c'est vrai. Vrai.
Et ça c'est juste. Et c'est en effet ce qui a lancé beaucoup de gens sur une fausse piste. C'est-à-dire que ça c'est vrai. Et ce qui a intrigué, c'était... Alors, en Espagne, ça ne posait pas vraiment de problème. Les Espagnols savent, connaissent cette mesure, savent qu'elle s'abrégeait comme ça. Mais le mystère, c'était pourquoi est-ce qu'en France, ça s'appelle comme ça ? Et donc, un des aspects de la recherche du côté de la typographie, ça a été de remonter l'histoire de la présence de l'arrobat typographique française, qui fait que, quand l'Internet a commencé... Il y a eu visiblement des vieux typographes français qui ont dit à je ne sais qui, ça je sais, ça s'appelle, quand on leur a demandé comment ça s'appelle, ils ont dit ben, une arrobase, qui était en fait la déformation, comme je disais, de arrobas au pluriel hein, en espagnol. Et le mystère, c'est pourquoi est-ce qu'on a produit en France, dans la typographie française, ce genre de forme ? C'était peut-être pour l'exporter en Espagne. Et en tout cas, j'ai pu remonter jusqu'au début du 19e siècle, pratiquement, et même tout à fait fin 18e, dans des livres imprimés en français même, dans des manuels d'espagnol produits en France. Il y a régulièrement une page, la liste des abréviations usuelles de l'espagnol, et on trouve l'arrobase dans ce cadre-là. Voilà. Et en Espagne aussi, c'est dans les anciennes grammaires de l'Académie royale espagnole, qu'on trouve en 1754, aussi la première arrobase imprimée de tous les temps, imprimée de manière typographique, hein, dans un manuel donc, de grammaire. Et avant ça, il faut remonter à des planches gravées, donc pas typographiques, de ces manuels d'écriture. Et là, on trouve les plus anciennes imprimées en Italie au milieu du XVIe siècle, hein, ou un peu après, 1560.
Brièvement cette question. Et le mot arrobase en français, quand est-ce qu'il apparaît donc
Bonne question. Alors, le mot arrobase, ben, on le trouve alors dans des manuels de typographie, justement, du début du XXe siècle déjà. On trouve le caractère représenté et en dessous, il y a écrit arroba. Hein, voilà. Pour vous dire à quoi ça sert.
Est-ce que ça vient pas de l'Espagne ?
Oui, évidemment. C'est le signe espagnol en tant que tel. Donc, qui circule avec son nom espagnol et pour un usage dans des textes espagnols, puisqu'en France, personne ne sait à quoi ça sert. Et on trouve également dans certains de ces manuels typographiques la forme. Alors, la forme correcte, c'est arroba avec deux R, O-B-A. Hein, et on trouve dans au moins un manuel. Enfin, dans un spécimen, plus précisément, un spécimen de fonderie typographique, la fonderie Peignot, voilà. On trouve ce signe avec une légende qui dit arrobas, A-R-O-B-A-S. Donc, une faute d'orthographe et l'S du pluriel. Et là, on est pratiquement à l'arrobase. Il n'y a qu'à ajouter le E et puis on est bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, dans les premières décennies d'Internet, il y avait beaucoup d'hésitations encore sur le mot. Et on trouvait arrobasque, arabesque... toutes sortes de variantes qui ont disparu entre-temps. Les puristes disaient qu'il faut appeler ça arrobe et rien d'autre parce qu'on connaissait précisément la filiation avec l'Espagne. Mais finalement, dans l'usage populaire, justement, c'est la forme arrobase qui a fini par l'emporter. Et c'est pour ça que c'est celle que j'ai retenue pour le titre aussi.
Le mot entre dans le dictionnaire à ce moment-là.
Oui. Des décisions tout à fait officielles je ne sais plus quelle circulaire qui dit comment il faut appeler la chose et que c'est un mot féminin et pas masculin, etc. Mais encore une fois, parce qu'on connaît l'étymologie espagnole. Mais il y a eu beaucoup de doutes sur l'exactitude de cette étymologie. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont discuté, en particulier en France. La discussion a été vive en France autour de l'an 2, dans les fin des années 90, début 2000. C'est que ça posait une vraie question par rapport, une question technique, par rapport à la façon dont il fallait dénommer ce signe dans la typographie numérique. Qu'est-ce que c'est que ce signe ? Comment est-ce qu'il faut l'appeler ? Quelle est sa fonction ? Est-ce que c'est la même chose que l'at anglais, justement ? En fait, c'était déjà la question qui se posait. Est-ce que c'est vraiment le même signe ou est-ce qu'il faut les encoder séparément ? Voilà. Est-ce qu'on voit bien, alors si on fait vraiment, si on garde les choses à la loupe, c'est que la forme de l'arrobase telle qu'elle est représentée dans la typographie espagnole, elle a toujours un petit crochet à la fin qui remonte à plusieurs siècles, alors que la forme italo-anglaise se termine par un trait simple. Hein, et dans la typographie, on retrouve exactement la même distinction. C'est une preuve de plus par la forme qu'il n'y a pas de filiation entre les deux, contrairement à ce que disait M. Stabilé en 2000. Voilà. Et donc là, c'est vraiment retour à l'approche visuelle, proprement paléographique, transposée en typographie, si vous voulez, qui montre que c'est deux filons indépendants. Non, justement, on l'appelle arrobase uniquement en espagnol, en portugais et en français. Et les Français ont reçu ça de l'Espagne. Personne d'autre n'appelle ça arrobase.
Voilà.
En anglais, on l'appelle at sign. Et dans d'autres langues, dans d'autres langues, ce qui fait que le point de départ a été franco-espagnol, c'est que c'est la seule langue où le signe avait un qui ne voulait rien dire à part le nom de ce signe. Voilà. Alors que dans toutes les autres langues, donc ça se rattachait nécessairement à son origine historique. Voilà. Alors que dans toutes les autres langues, les gens ont découvert l'arrobase avec le courrier électronique et ont donné des noms fantaisistes, descriptifs, très charmants, différents selon toutes les langues. Dans certaines langues, ça évoque l'escargot, comme en italien, la chiocciola. Dans d'autres langues, le petit canard, en grec, papaki. Petit singe, alors en allemand, Affenschwanz, queue de singe. et en Suisse germanique, c'est Affenschwanz. Et en allemand, c'est Klammeraffe. C'est une sorte spéciale de singe qui s'appelle en zoologie le singe attelle, qui est un singe avec une longue queue préhensile comme ça qui traîne derrière lui quand il saute d'un arbre à l'autre. Donc les Allemands, quelque chose de très spécifique. Les Néerlandais, c'est pareil, Appenstaartje, c'est pareil, c'est queue de singe ou petite queue de singe. En russe, c'est Sabatchka, petit chien, etc.
Vous parlez combien de langues ?
Non, je ne parle pas toutes ces langues. Hein, mais... J'en parle quelques-unes, mais pas toutes celles où je sais dire arrobase. Et puis, alors ça, c'était à l'origine. Et puis, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que c'est le nom anglais qui se répand. Et que partout, on dit de plus en plus « at ». Et puis voilà. Et que même en français, on dit... Ça s'appelle l'arrobase, mais on dira un tel « at ». Non, enfin, je ne sais pas comment vous faites.
Je ne sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais je pense que c'est en train de devenir beaucoup « at ».
Oui, c'est ça.
Il y a quelques années encore, c'était souvent « arrobase », mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu trop pris le pli de dire « at ». J'ai une question par rapport à... Je vous rends la parole juste après, mais... Donc là, vous étiez en train de nous faire plein de mots dans plein de langues différentes, etc. Sur la lecture, et vous parliez aussi des différentes façons, finalement, de le faire, cette arrobase. Vous savez lire vraiment tous les documents, parce que quand on les regarde, vous regarderez sur le livre, ben là, au hasard, il y en a un qui s'ouvre. Enfin, c'est vraiment très difficile à lire, et c'est même parfois, je trouve, moi, je regardais, en lisant, je regardais vraiment, parce qu'il y a écrit, ah là, il y a un arrobase, et même moi, je n'arrivais pas à le voir forcément.
Les illustrations sont...
Heureusement, parfois, vous mettez... Oui, mais c'est très difficile, en fait, moi, c'est sur votre travail, comment vous... Voilà.
Non, mais c'est vrai.
Page 28, par exemple, je ne sais pas comment M. Smith a réussi à avoir des arrobases dans ce texte.
On peut voir.
Comment vous faites ?
Après, les lire, c'est autre chose.
Mais c'est de l'entraînement. Vous dites qu'il faut être entraîné. Mais comment vous faites ?
Il y a des cas où j'aurais peut-être dû les entourer pour les rendre
plus
visibles.
Parlez bien dans le micro.
Oui.
Mais en général, dans votre travail, moi, ça m'intéresse.
Il est vrai que, alors, pour la période en question, fin du Moyen-Âge et époque moderne, la paléographie moderne est un peu enfermée dans des écoles, pays par pays. Hein, parce que, par rapport au Moyen-Âge latin, où les documents et les livres circulent beaucoup plus, à l'époque moderne, et donc, un des aspects de mon travail, en particulier sur les modèles d'enseignement de l'écriture, je parlais tout à l'heure de la circulation internationale des modèles, c'était d'essayer de cerner un peu ce qu'a été le paysage graphique de l'ensemble de l'Europe. Et c'est vrai que j'ai été amené à regarder donc, les modèles d'enseignement. Et puis, bon, par ailleurs, de mon enseignement à l'EPHE, donc, j'en ai profité pour donner des séminaires d'année en année, chaque fois sur une langue différente. Et donc, ça m'a permis de parcourir dans leur grande diversité sur lesquelles j'ai peiné moi aussi initialement. Les écritures espagnoles, c'est infernal. Et donc on a fait, voilà,
du portugais, de l'allemand, de l'anglais.
Et donc ça veut dire que vous êtes quasiment sûr, si vous voyez un document, de ne pas laisser passer l'arrobase si elle y est.
Je pense avoir... Oui, non, voir l'arrobase,
c'est pas forcément... Excusez-moi, moi je trouve que c'est pas forcément évident.
Oui, mais ça...
c'est votre travail.
Ça c'est peut-être une déformation professionnelle, oui. Quelques-uns de ces documents que j'ai choisis pour leur aspect calligraphique, et très échevelé, hein, notamment des modèles de maître écrivain. Et vous pouvez vous amuser à chercher des arrobas là-dedans. Mais dans les cas où c'est un peu compliqué, j'ai mis des petites transcriptions en dessous pour signaler où sont les arrobas.
Voilà. Heureusement.
Et pour, et pour qu'on sache un peu dans quel contexte c'est utilisé.
Ouais.
Dans un document commercial italien, voilà, quand on a quatre arrobas dans la même phrase, qu'on sache qu'il y en a un pour la page du registre, un pour le prix, un pour la date, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors attendez, on va vous donner le micro.
Juste une question de détail. Vous avez évoqué l'écriture de type oncial au début, avec un D assez. Est-ce que ce n'est pas une influence du grec ancien ?
Du grec
ancien,
oui. Oui, alors ça, pendant des questions. Qui donc chronologiquement nous se sont bien antérieurs. Mais effectivement, le développement de l'ancial latine, oui, c'est une évolution à partir de la capitale romaine, mais fortement influencée par ce qu'on appelle la majuscule biblique grecque, qui effectivement avait aussi ses formes rondes. Il y a des interactions constantes entre les écritures grecques et romaines, oui, qui sont relativement peu étudiées par rapport à ce qu'elles mériteraient, parce que peu de gens sont aussi compétent sur les deux côtés.
J'en ai fait l'expérience au lycée fort longtemps, où un professeur de lettres latin-grec écrivait les D.
Très
influencé par les deltas.
Alors oui, vous pensez au delta, c'est ça, oui. Oui, en grec, c'est devenu la forme standard du delta, en fait.
Oui.
Mais c'est vrai que dans l'écriture grecque, donc, que j'appelle la majuscule biblique, là, et qui chronologiquement et stylistiquement, techniquement, est proche de l'ancial romaine, c'était déjà cette forme de delta, oui.
Est-ce qu'on a une dernière question ? Si ce n'est pas le cas, je vais vous remercier. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.